du même Scarron. Il était protégé par Mademoiselle de Hautefort, une fort jolie femme, un peu riche, qui subvenait aux besoins de ce paralytique. Et voilà que Mademoiselle de Hautefort a pris bien des galanteries. Elle avait tourné l'œil de Louis XIII, seulement l'œil. Après bien des galanteries, elle réussit à épouser le maréchal de Chambert. La voilà maréchal de France. Et il est éduqué père. Donc, auprès de la reine Anne d'Autriche, de la reine mère, elle a accès au tabouret. Il fallait être épouse d'un duc et père pour s'asseoir sur un tabouret en compagnie de la reine, dans le cercle de la reine. Alors Scarron la félicite de cette promotion. « On ne vous verra plus en posture de pie dans le cercle accroupi, au grand plaisir de tous et de votre jarret. Votre cul, qui doit être un des plus beaux culs de France, comme un cul d'importance, a reçu chez la reine enfin le tabouret. Comme on connaît souvent une chose par l'autre, d'un cul comme le vôtre, j'ai connu le destin voyant votre beau nez. » Elle avait un nez ravissant. « Et sans être devin, j'ai prédit que sans doute, ce cul qui ne voit goutte serait vu dans le rang de nos culs couronnés. Notre reine, princesse aussi juste que sage, n'a pu voir davantage un cul plein de mérite et très homme de bien, tandis que d'autres culs sont assis à leur aige à côté de sa chaise, debout ou mal assis, comme un cul bon à rien. Ce cul de satin blanc, dont sans doute la face ne fit jamais grimace, devait assurément être un cul duc et pair, car qu'aurait-on pensé de ce qu'un cul si sage, qui vaut bien un visage, n'eût pas eu chez la reine où reposer sa chair, que les hommes n'ont pas pareille destinée, et que vous êtes né sous un astre puissant et favorable au cul, tandis que le vôtre est près de ceux des princesses, assis sur ses deux fesses. Le nôtre n'est assis que sur deux os pointus. » Le cul décharné du malheureux Scarron. Bon. Des poètes de cette sorte, il y en a pas mal. Il y a aussi, qui passe pour beaucoup plus grave, les moralistes. Jean Sérieux, d'autant qu'on associe La Rochefoucauld au jansénisme, par exemple, ou que l'on sait que La Bruyère était un intime de Bossuet. Je suis venu avec mon La Bruyère, mais il est bien connu, trop connu. C'est La Rochefoucauld qui m'intéresse un peu. La Rochefoucauld avait beau être jansénisant, vaincu de l'histoire, hein, puisque frondeur, mal repenti et disgracié du roi, malade, avec des blessures de guerre mal cicatrisées et probablement mélancolique, il lui est arrivé plus d'une fois de s'amuser, notamment dans les maximes. Mais hors des maximes aussi. J'ai un peu de temps encore, oui ?
Oui, monsieur.
Bon. Outre les maximes, il fit circuler d'abord, puis se résigna à imprimer ensuite, des réflexions diverses. Alors, je vous soumets celle-ci sur de l'amour et de la mer. Vous avez une espèce d'humour, de pince sans rire, à propos des liaisons amoureuses interminables. Oui, les liaisons qui languissent. Ceux qui ont voulu nous représenter l'amour et ses caprices l'ont comparé en tant de sortes à la mer, qu'il est malaisé de rien ajouter à ce qu'ils en ont dit. Ils nous ont fait voir que l'un et l'autre sont une inconstance et une infidélité égale, que leurs biens et leurs maux sont sans nombre, que les navigations les plus heureuses sont exposées à mille dangers, que les tempêtes et les écueils sont toujours à craindre, et que souvent même on fait naufrage dans le port. Mais en nous exprimant tant d'espérance et tant de crainte, ils ne nous ont pas assez montré, ce me semble, le rapport qu'il y a d'un amour usé, languissant et sur sa fin, avec ses longues bonasses, Philippe est navigateur, à ses calmes ennuyeux que l'on rencontre sous la ligne. Alors, voilà la situation des deux amants, au terme d'une longue liaison qui languit. On est fatigué d'un grand voyage, on souhaite de l'achever. Vous voyez l'image pour évoquer la rupture. On voit la terre, mais on manque de vent pour y arriver. Je vois une autre femme, enfin, qui pourrait me libérer de celle-là. Ou je vois la paix d'être débarrassé d'elle, mais ça ne vient pas. On se voit exposé aux injures des saisons. Les maladies et les langueurs empêchent d'agir. L'eau et les vivres manquent ou changent de goût. Ce dont on se nourrissait dans un amour partagé se dégrade, change de goût. Ça n'a plus de goût et même c'est dégoûtant. On a recours inutilement aux secours étrangers. Elle prend un amant, je prends une maîtresse. Mais enfin, on reste ensemble. On essaye de pêcher et on prend quelques poissons sans en tirer de soulagement ni de nourriture. On est las de tout ce qu'on voit. On est toujours avec ses mêmes pensées et on est toujours ennuyé. On vit encore et on a regret de vivre. On attend des désirs pour sortir d'un état pénible et languissant, mais on n'en forme que de faibles et inutiles. Plus de désirs. On a même plus le désir de rompre, alors que l'on souffre tant à demeurer ensemble. Dans le corps des maximes, outre il y a quelques maximes qui prêtent à sourire, parce qu'on ne s'attend pas à la chute, qui est surprenante, là c'est de l'esprit dont la Rochefoucauld est très capable. Mais quelques-unes sont ingénieusement faites pour nous faire sourire. J'en prends une qui traite d'une sorte particulière d'hypocrisie, celle qui est nôtre quand nous nous forçons à pleurer quelqu'un qui vient de disparaître. Nous jouons l'affligé. Alors, vous apprécierez, je vous préviens, l'habileté avec laquelle il passe des sujets de ses phrases qui sont, au début, c'est « nous » et « on », puis c'est « des personnes », et à la fin, les personnes, la syntaxe, la langue l'oblige, se réduisent à « elles ». Et l'on comprend qu'il s'en prend aux fausses veuves, aux veuves hypocrites. La Rochefoucauld. Il y a dans les afflictions diverses sortes d'hypocrisie. Dans l'une, sous prétexte de pleurer la perte d'une personne qui nous est chère, nous nous pleurons nous-mêmes. Nous regrettons la bonne opinion qu'il avait de nous. Nous pleurons la diminution de notre bien, de notre plaisir, de notre considération. Ainsi, les morts ont l'honneur de larmes qui ne coulent que pour les vivants. Je dis que c'est une espèce d'hypocrisie, à cause que dans ces sortes d'afflictions, on se trompe soi-même. Il y a une autre hypocrisie qui n'est pas si innocente, parce qu'elle impose à tout le monde. C'est l'affliction de certaines personnes qui aspirent à la gloire d'une belle et immortelle douleur. Après que le temps, qui consume tout, a fait cesser celles qu'elles avaient en effet, elles ne laissent pas d'opiniâtrer leurs pleurs, leurs plaintes et leurs soupirs. Elles prennent un personnage lugubre et travaillent à persuader par toutes leurs actions que leur déplaisir ne finira qu'avec leur vie. Cette triste et fatigante vanité se trouve d'ordinaire dans les femmes ambitieuses. On avait deviné avec les sujets « elles » qu'il s'agissait des femmes. Comme leur sexe leur ferme tous les chemins qui mènent à la gloire, pas de gloire au barreau ou dans la diplomatie ou à la guerre au XVIIe siècle pour les femmes, on a changé tout ça. Comme leur sexe leur ferme tous les chemins qui mènent à la gloire, elles s'efforcent de se rendre célèbres par la montre d'une inconsolable affliction. Il y a encore une autre espèce de larmes qui n'ont que de petites sources qui coulent et starissent facilement. On pleure pour avoir la réputation d'être tendre. On pleure pour être plaint. On pleure pour être pleuré. Enfin, on pleure pour éviter la honte de ne pleurer pas. Avec quasiment un jeu de mots à la fin. Voici ce dont, à 16 heures, La Rochefoucauld était capable. Cette histoire de veuvage me fait penser à un autre moraliste, peu connu, Charles Dufresny, qui pourtant fit un voyage en Laponie, il est l'auteur des Amusements sérieux et comiques, et c'est lui qui eut l'idée, le premier, de faire traverser Paris et Versailles par des orientaux qui s'étonnent de ce qu'ils voient. Et c'est déjà les lettres persanes. Cela préfigure les lettres persanes. Alors vous avez des chapitres avec des petites remarques sur le mariage, sur le veuvage, remarques spirituelles. On doit s'attendre que je vais parler ici du veuvage. C'est un grand sujet et très fertile, mais il est trop difficile à traiter. Comment parler des veuves ? Si je ne les dépeins qu'à demi fâchée de la mort d'un mari, je blesserai la bienséance. Si j'exagère leur affliction, je blesserai la vérité. Quoi qu'on puisse dire, les mauvais plaisants, il n'y a point de veuvage sans tristesse. N'est-ce pas toujours un état fort triste d'être obligé de feindre une tristesse perpétuelle ? Le triste rôle à jouer que celui d'une veuve qui ne veut point faire parler d'elle. Il y a des veuves à qui les sanglots et les larmes ne coûtent rien. Je n'ai connu une, au contraire, qui faisait de bonne foi tout son possible pour s'affliger, mais la nature lui avait refusé le don des larmes. Cependant, elle voulait faire pitié aux parents de son mari. Ses affaires dépendaient d'eux. Un jour, son beau-frère, qui lui était fort affligé, lui reprochait qu'elle n'avait pas versé une larme. « Hélas !» lui répondit la veuve. « Mon pauvre esprit a été si accablé par ce coup imprévu que je suis devenu comme insensible. Les grandes douleurs ne se font point sentir d'abord, mais dans la suite, je suis sûr que j'en mourrai. Je sais, lui répliqua le beau-frère, que les douleurs trop grandes ne se font point sentir d'abord. Je sais encore que les douleurs violentes ne durent guère. Ainsi, madame, vous serez tout étonnée que la douleur de votre veuvage sera passée avant que vous ne l'ayez sentie. Une autre veuve, voilà le passage délicieux, une autre veuve se désespérait, et ce n'était pas son sujet. Elle avait perdu en même jour le meilleur mari et la plus jolie petite chienne de Paris. Ce double veuvage l'avait réduite en un état qui faisait craindre pour sa vie. On n'osait lui parler de boire ni de manger, on n'osait pas même la consoler. Il est dangereux d'obstiner la douleur d'une femme. Il vaut mieux laisser agir le temps et l'inconstance. Cependant, pour accoutumer petit à petit la veuve à supporter l'idée de ses pertes, une bonne amie lui parla d'abord de sa petite chienne. Au seul nom de Babichonne, ce fut des hurlements des transports. Elle s'évanouit enfin. « Que j'ai bien fait !» s'écria la prudente amie, « de ne point parler du mari, elle serait morte tout à fait. » Le lendemain, le nom de Babichonne fit couler les larmes avec tant d'abondance qu'on espéra que la source en tarirait bientôt, et l'ami zélée crut qu'elle pouvait hasarder le nom du mari. « Hélas !» lui dit-elle, « si le seul nom de Babichonne vous afflige tant, que serait-ce donc si on vous parlait de votre mari ? Mais je n'ai garde, la pauvre Babichonne. Vous n'en trouverez jamais une semblable, cependant elle est bien heureuse d'être morte, car vous ne l'auriez plus aimée. Peut-on aimer quelque chose après avoir perdu un mari ? » C'est ainsi que cette habile amie mêlait adroitement l'idée du mari avec celle de Babichonne, sachant bien que quelquefois, deux fortes douleurs se détruisent l'une l'autre en faisant diversion. Elle remarqua qu'au nom de Babichonne, les pleurs redoublaient et qu'elle s'arrêtait tout court au nom du mari. C'était sans doute le saisissement. On sait que les pleurs ne sont que pour les douleurs médiocres. Quoi qu'il en soit, la pauvre affligée passa plusieurs jours et plusieurs nuits dans cette alternative de pleurs et de saisissements. Enfin, la bonne amie fit chercher une petite chienne et en trouva une plus jolie que la défunte. Elle la présenta, mais la veuve ne l'accepta qu'en pleurant. Heureusement, la nouvelle chienne se fit tant aimer en 8 jours qu'on ne pleura plus Babichonne. Et voilà la conséquence que l'ami en tira. Si une chienne nouvelle a fait cesser les pleurs, peut-être qu'un mari nouveau fera cesser les saisissements. Mais hélas, l'un ne fut pas si facile que l'autre. La nouvelle chienne s'était faite aimer en 8 jours, et il fallut plus de 3 mois pour faire consentir à la veuve à se remarier. Dufresny, moraliste spirituel. Du côté du conte, vous trouvez aussi, n'est-ce pas, des endroits très savoureux, y compris chez Perrault. Alors ces endroits sont peut-être peu décents et sont souvent supprimés des versions actuelles des contes de Perrault pour les enfants. Mais dans La Belle au bois dormant, il nous est dit « Comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et le regarda avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre. » Donc elle est très aguicheuse. Elle vient de se réveiller et ses yeux trahissent quand même quelques témérités. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Elle attend depuis 100 ans. Hein « Vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ses paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage. Peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire. Car il y a apparence que la bonne fée, pendant un si long sommeil, devait procurer le plaisir des songes agréables. Alors je traduis, la bonne fée, pendant 100 ans, lui a régulièrement envoyé des songes érotiques. C'est ça que cela veut dire. Pendant son long sommeil, elle eut des songes agréables, donc elle a eu le temps de songer à la façon de recevoir le prince charmant. Vous vous souvenez, le palais se réveille, on les marie aussitôt. Le grand aumônier les maria dans la chapelle du château. La dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu. La princesse n'en avait pas grand besoin. En effet, elle a dormi 100 ans. Mais lui non plus, n'est-ce pas, qui veut honorer son mariage, je pense, plaisanterie classique sur les 8 noces, a très peu dormi. Et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville où son père. Bon, c'est la suite. J'ai là aussi, imitatrice de Perrault, Madame d'Aulnoy, conteuse des années 1700. Voilà comment, avec beaucoup d'esprit et de malice, mais ce n'est pas satirique, c'est fait pour nous arracher un simple sourire, comment elle raconte le début de L'Oiseau bleu, histoire d'amour où le soupirant, par une méchante fée, une horrible fée, il métamorphosé un oiseau bleu. Donc il en est réduit à aller rendre visite à sa belle qui est enfermée dans une tour et il ne peut que chanter. Et lui, il becquette ses lèvres, elle embrasse son bec. Ce sont des scènes charmantes qui inspireront plus tard Maeterlinck. Il était une fois un roi fort riche en terre et en argent. Sa femme mourut, après la veuve, le veuf. Hein. Sa femme mourut, il en fut inconsolable. Il s'enferma 8 jours entiers dans un petit cabinet où il se cassait la tête contre les murs tant il était affligé. On craignait qu'il ne se tuât, on mit des matelas entre la tapisserie et la muraille. Bon, peut-être en fait-il trop. Hein. Il avait beau se frapper, il ne se faisait plus de mal. Tous ses sujets résolurent entre eux de l'aller voir et de lui dire ce qu'il pourrait de plus propre à soulager sa tristesse. Les uns préparaient des discours graves et sérieux, d'autres agréables, et même des réjouissants. Mais cela ne faisait aucune impression sur son esprit, à peine entendait-il ce qu'on lui disait. Enfin, il se présenta devant lui une femme, si couverte de crêpes noires, de voiles, de mantes, de longs habits de deuil, et qui pleurait et sanglotait si fort et si haut qu'il en demeura surpris. Elle lui dit qu'elle n'entreprenait point comme les autres de diminuer sa douleur, qu'elle venait pour l'augmenter, parce que rien n'était plus juste que de pleurer une bonne femme, que pour elle, qui avait eu le meilleur de tous les maris, elle faisait bien son compte de pleurer tant qu'il lui resterait des yeux à la tête. Là-dessus, elle redoubla ses cris, et le roi, à son exemple, se mit à hurler, comme dans les deuils de l'Antiquité. Il la reçut mieux que les autres. Il entretint des belles qualités de sa chère défunte, elle renchérit sur celle de son cher défunt. Ils causèrent tant et tant qu'ils ne savaient plus que dire sur leur douleur. Quand la fine veuve vit la matière presque épuisée, elle leva un peu ses voiles. Et le roi affligé se récréa à la vue et regardait cette pauvre affligée qui tournait et retournait fort à propos deux grands yeux bleus bordés de longues paupières noires. Son teint était assez fleuri. Le roi la considéra avec beaucoup d'attention. Peu à peu, il parla moins de sa femme, puis il n'en parla plus du tout. La veuve disait qu'elle voulait toujours pleurer son mari. Le roi la pria de ne point immortaliser son chagrin. Pour conclusion, l'on fut tout étonné qu'il l'épousa et que le noir se changeât en vert et en couleur de rose. Il suffit très souvent de connaître le faible des gens pour entrer dans leur cœur et pour en faire tout ce que l'on veut. Petite moralité au début de L'Oiseau bleu. Voilà ce dont les conteurs étaient capables. Mais j'étais venu avec d'autres textes de gens, alors réputés, oui, de gens réputés fort austères, théologiens, spirituels, pédagogues, admirables écrivains, Fénelon. Fénelon, il est vrai que Fénelon était gascon, et que les gascons, la plaisanterie ne leur déplaît point. Fénelon écrivit pour le duc de Bourgogne, paru après sa mort, des contes de fées, des fables, et plusieurs de ses textes sont très amusants, d'une gaieté un peu malicieuse. Il y a quelques traits d'ironie, mais le duc de Bourgogne, qui avait 9 ans quand Fénelon s'est occupé de lui comme précepteur, devait sourire sûrement à écouter ces jolies histoires que Fénelon devait lui lire, en mettant le ton, j'imagine. Je vais terminer là-dessus, puisque les choses sont... je vous donne le début d'une fable, histoire d'une vieille reine et d'une jeune paysanne. Il était une fois une reine, si vieille qu'elle n'avait plus ni dents ni cheveux. Sa tête branlée comme les feuilles que le vent remue. Elle ne voyait goutte, même avec ses lunettes. Le bout de son nez et celui de son menton se touchaient. Elle était rapetissée de la moitié, tout en un peloton, avec le dos si courbé qu'on aurait cru qu'elle avait toujours été contrefaite. Une fée l'aborda et lui dit « Voulez-vous rajeunir ?»« Volontiers, » répondit la reine. « Je donnerai tous mes joyaux pour n'avoir que 20 ans. Il faut donc, continua la fée, donner votre vieillesse à quelqu'un dont vous prendrez la jeunesse et la santé. À qui donnerons-nous vos 100 ans ?» La reine fit chercher partout quelqu'un qui voulut être vieux pour la rajeunir. Il vint beaucoup de gueux qui voulaient vieillir pour être riches. Mais quand ils avaient vu la reine tousser, cracher, râler, vivre de bouillie, être sale, hideuse, puante, souffrante et radoter un peu, ils ne voulaient plus se charger de ses années. Ils aimaient mieux mendier et porter des haillons. Ils venaient aussi des ambitieux, à qui elles promettaient des grands rangs et de grands honneurs. Mais que faire de ces rangs, disait-il après l'avoir vu, nous aurions nous montrer étant si dégoûtant et si horrible. Mais enfin, il se présenta une jeune fille de village, belle comme le jour, qui demanda la couronne pour prix de sa jeunesse. Elle se nommait Péronnelle. Et ça va se passer très mal. Elle va beaucoup souffrir, n'est-ce pas, de la vieillesse dont elle a hérité. Quant à la reine rajeunie, souffre beaucoup de s'occuper de brebis et de cochons. Et la fée, bonne fée, va accepter que chacune retrouve sa nature. À la fin, on va marier Péronnelle, et la fée va décider qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, un godelureau prétentieux, un trop joli garçon qui sera sûrement infidèle, qu'il vaut mieux pour Péronnelle un brave paysan, bien vulgaire, bien épais. Elle sera ainsi heureuse. Voilà de quoi étaient capables nos ancêtres du XVIIe siècle. Il y a une gaieté très, très, très abondante que l'on peut illustrer de mille façons. Pour nous, en tout cas pour moi, je trouve que comme beaucoup, n'est-ce pas, je trouve que notre époque n'est pas toujours très riante, et se plonger dans de tels textes m'arrache quelques sourires, voire carrément des gros rires, tant mieux pour mon équilibre. Et puis je songe à cet esprit de sérieux, ce terrifiant esprit de sérieux qui, me semble-t-il, martyrise les étudiants, les collégiens et les lycéens. Les pédagogues, notamment en matière de littérature, sont d'un sérieux, ils veulent des idées, ils veulent des formes, ils veulent de la rhétorique, des structures, des superstructures. La littérature aussi, n'est-ce pas ? Rabelais l'a dit, Erasme l'a dit, les anciens de pensée, elle est aussi faite pour nous arracher, pour rien, mais pour notre bonne santé, un éclat de rire. Et alors, allez dire à un professeur qu'il faut étudier des textes qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien d'être heureux.